L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est environ 8h45 ce dimanche 19 mai 1895 à Erine, un petit village rural traversé par la route qui relie Tournai à Audenarde, sur la rive droite de l'Escaut. Il fait beau, c'est le printemps, la plus belle des saisons. La campagne se réveille et s'habille d'un costume coloré après un long hiver. Les oiseaux chantent dans les arbres, lesquels ont retrouvé leur feuillage. Un couple de fermiers rentre chez lui. Il revient de la messe. Charles Defranes a revêtu son costume du dimanche. Sidonie François a enfilé sa plus belle robe. Charles et Sidonie sont des gens très pieux, comme la plupart des paysans du coin d'ailleurs. Chaque dimanche, ils assistent à la messe de 6h à l'église Saint-Amand de Bigie. La ferme de la Voirie est une exploitation agricole classique de l'époque. Elle entoure une grande cour dans laquelle gloussent quelques gallinacées autour d'un tas de fumier. À gauche, il y a la porcherie et la grange collée à la cuisine. Et puis, ce sont les chambres des parents, des enfants et des domestiques. Des dépendances complètent cette propriété rectangulaire entourée de champs, de prairies et d'un immense verger. Charles et Sidonie y coulent des jours heureux avec leurs 4 garçons. Les 3 premiers sont les fruits d'un premier mariage. Sidonie est veuve du cousin de Charles. Ils se sont mariés et ont un fils en commun, né 9 mois plus tôt. Ce matin-là, l'aîné des enfants, Auguste, s'est rendu seul à l'église d'Aubigie. Ses parents avaient décidé d'aller à la messe au Mont-Saint-Aubert, où ils comptaient aller rendre visite à un parent. Et puis, un détour par la colline n'est jamais désagréable. Donc, de là-haut, on peut voir le beffroi, les 5 clochers de la cathédrale Notre-Dame de Tournai et des nombreuses églises que compte la cité de Clovis qui se dresse vers le ciel. Les parents ont donc laissé Charles-Louis, 8 ans, et Édouard, 6 ans, à la maison en compagnie du petit dernier, Léon, âgé de 9 mois. Avant de partir, Charles avait donné ses ordres aux enfants. Interdiction d'ouvrir la porte à des inconnus et il devait éplucher les pommes de terre pour le dîner. La charrette tirée par un cheval rentre dans la ferme de la Voirie, dans le hameau du Carne. Charles aide son épouse à descendre de la carriole. La porte du logis est grande ouverte. Le couple pénètre dans la maison où règne un bazar épouvantable. Jamais le logis ne s'est retrouvé dans un tel désordre. Les tiroirs sont ouverts, c'est comme si quelqu'un était venu voler. Auguste, le fils aîné parti à la messe à Aubigie, signale qu'il est rentré depuis un quart d'heure et qu'il cherche ses frères. « Ah ben si ce sont eux qui ont mis un tel bazar, ils vont passer un sale quart d'heure !» s'emporte Charles. Le fermier part à leur recherche. Il se rend à l'étable, dans le verger, les prairies. « Charles-Louis ? Édouard ?» Non, personne ne répond. Dans la maison, en rentrant dans la cuisine, la maman a un mauvais pressentiment. Les pommes de terre ne sont pas épluchées comme l'avait demandé son mari à ses fils. Charles se rend dans la grange, où il stocke ses meules de foin et de paille. Là, il s'arrête soudainement devant la bâtisse. Ben oui, il y a du sang sur la porte. Il entre et aperçoit un tas de paille sur le sol, à un endroit où elle ne devrait pas s'y trouver. La paille n'est plus jaune. Ah non, elle est rouge. Elle est rouge sang. Il panique. De manière instinctive, il enlève la paille avec ses mains. Et là, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Les 2 enfants sont couchés sur la terre battue. L'un a la face contre terre et l'autre a le visage légèrement incliné vers la porte d'entrée. Édouard a une profonde blessure à la tempe droite et une moins profonde au-dessus de l'œil gauche. L'arrière du crâne de son frère est fracassé. Il a une plaie sanglante au-dessus de l'œil gauche. Près des petites victimes, il y a un morceau de bois dégrossi, destiné à être transformé en palonnier de charrette. L'objet que l'on appelle ici un traversier est couvert du sang des victimes. Des cheveux sont collés au morceau de bois, l'arme du crime, sans aucun doute. Le père de famille s'agenouille devant ses beaux-fils, qu'il considère comme ses propres enfants. Il pleure. Il n'a pas le courage d'aller annoncer la terrible nouvelle à sa femme. Il se rend chez un voisin à qui il demande de se rendre à la gendarmerie de Peck. L'homme monte sur son cheval et file à travers la campagne. Il passe sur le pont qui enjambe l'Escaut et se rend à la gendarmerie qui se trouve le long de la route qui relie Tournai à Courtrai. Charles rentre chez lui. Il est blanc comme un linge. Sa femme se jette sur lui. « Mes petits, mais où sont mes petits? Que sont-ils devenus ?» Charles, lui, est incapable de parler. Elle le supplie, l'implorant de lui dire où se trouvent ses fils. À bout de force, Charles lui annonce qu'ils ont été tués, que les cadavres gisent dans la grange. Un cri de douleur déchire la campagne. Les voisins affluent vers la ferme. Sidonie vient de s'effondrer en voyant les cadavres de ses fils. Charles la transporte dans sa maison et la dépose sur leur lit. Les voisines prennent soin d'elle. Un linge imbibé d'eau glacée est placé sur son front. Le petit Auguste est figé. Il a 10 ans. Il est confronté à une scène horrible. On lui a pris ses petits frères. Il est 9h12 quand les gendarmes arrivent à cheval à la ferme de la voirie. Sidonie vient de se réveiller. Elle pleure, elle est inconsolable. Elle ne cesse de répéter « mes petits, mais pourquoi eux ?» Le bourgmestre, les conseillers communaux et le curé arrivent à la ferme. L'information circule vite. De nombreux curieux se présentent. Ils viennent d'Obigy, de Peck et des autres hameaux du village d'Erine, de la place, de Léaucourt et même de Cavrine, située à l'autre bout du village. Une troupe de gendarmes empêche les curieux de s'aventurer dans la grange, dans laquelle se rend le gendarme Louis Minique. Il inspecte le morceau de bois ensanglanté qui se trouve près des deux cadavres. Il est ennuyé par les mouches attirées par le goût du sang. Ensuite, Louis entre dans la maison dans laquelle résonnent les pleurs. Il trouve un autre outil tranchant, que les paysans du coin appellent un courbet. Un coffre a été fracturé dans la chambre des parents. Le gendarme constate que c'est le courbet qui a été utilisé pour forcer ce coffre. Il interroge Charles, qui le suit. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'argent dans ce coffre ? En 13 francs monnaie, précise le fermier. Les pièces ne sont plus là. Des vêtements pour adultes et pour enfants ont également disparu. Les économies des enfants, qui se trouvent dans 2 armoires de la cuisine, n'ont pas été dérobées. Le voleur ne les a même pas vus. Il savait donc ce qu'il cherchait. Le gendarme constate que la porte d'entrée n'a pas été fracturée. Charles de Frane avait ordonné à ses enfants de ne pas ouvrir à des inconnus. Or, ils ont ouvert la porte. Les enfants devaient donc connaître leur assassin. Charles porte ses soupçons sur un ancien domestique qu'il avait engagé au mois de janvier. Il s'agit d'un ouvrier, originaire de Berkem, les Hauts-de-Narde. Cet homme était venu lui proposer ses services. Charles avait hésité à l'engager car ce flamand avait un caractère sournois. Il avait la particularité de garder les yeux baissés quand on lui parlait. Charles l'avait finalement engagé et avait fini par se lier d'amitié avec lui. Il s'appelait François. Or, le mardi précédent le crime, François avait annoncé à Charles qu'il quittait son service. Il ne lui avait donné aucune raison. À l'époque, on ne signait pas de contrat. On ne s'inquiétait pas des formalités administratives, comme aujourd'hui. Le fermier lui avait alors remis son livret, passe-partout sur le marché du travail. Il ne l'avait plus revu depuis. Mais ce domestique, il savait que vous gardiez de l'argent dans votre coffre ? Demande le gendarme. Oh, probablement. Il était au courant que j'ai vendu une génisse. Il était là quand la vente a eu lieu. Et vous l'avez vendue combien, cette bête ? 145 francs. Mais vous venez de me dire qu'il y avait 13 francs dans le coffre. Où est le reste ? Ce que l'ancien domestique ignorait, c'est que Charles ne gardait pas cet argent chez lui, dans son coffre. Il le déposait chez un proche au Mont-Saint-Aubert. Raison pour laquelle il s'était rendu dimanche matin sur la colline qui domine la région. L'argent ne se trouvait donc plus dans le coffre. Les gendarmes écoutent attentivement le fermier. Ce qu'il raconte, ça ne ressemble pas à une vengeance personnelle d'un ancien domestique. Et puis, pourquoi se vengerait-il ? Non, notre fermier donne des éléments troublants. Ainsi, le courbet, qui a servi à ouvrir le coffre, se trouvait dans la chambre occupée par le domestique durant son service. Il était caché entre deux solives. Le tueur devait donc connaître l'existence de cette arme. Charles déclare aussi que le traversier, l'arme du crime, se trouvait dans la porcherie située à l'entrée de la ferme. Le gendarme Minick est persuadé que ce François est le tueur. Il connaissait les enfants qui lui ont ouvert la porte. Il connaissait les lieux, l'endroit où se trouvaient les outils et il savait que le fermier avait vendu une jeune vache et qu'il avait probablement placé l'argent dans son coffre. Le gendarme Minick interpelle le fermier. « Mais dites, il a quand même bien un nom de famille, ce François. »
Bon, je ne sais pas, moi je l'appelais François, c'est tout. »
Illettré, Charles n'a pas pu lire le nom de son valet de ferme sur son livret. Il peut néanmoins donner une description physique de l'individu. François est de forte corpulence, il a le teint coloré, les cheveux et les sourcils châtains, sa moustache est d'un blond roussâtre. Il a plusieurs tatouages dont un bonhomme dessiné sur l'avant-bras gauche et une encre dessinée entre le pouce et l'index de la main gauche. Et retenez bien ce détail. Il est important pour la suite de cette enquête. Il est 1h30 de l'après-midi. Une calèche s'arrête devant la ferme. Quatre hommes en sortent. Ils ont l'allure de bourgeois de Tournai. Et pour cause. Il s'agit du procureur du roi, du juge d'instruction, de son greffier et du médecin légiste. Les quatre hommes entrent dans le logis. Ils enlèvent leur couvre-chef et saluent l'assemblée. L'ambiance est lourde à la ferme. Sidonie en pleurs, tient son dernier né dans ses bras. Son époux est affalé dans un fauteuil, rongé par la douleur. Ils sont entourés par la famille et quelques voisins. Personne ne parle. On entend les mouches voler et les poules caqueter dans la cour. Les gendarmes font leur rapport au magistrat. En aparté, le juge interroge quelques personnes présentes dans la maison. L'un des premiers témoins auditionnés est le voisin, celui qui est allé alerter les gendarmes. Il déclare ceci. « Vers 7h du matin, j'ai vu un individu qui se dirigeait vers la ferme de la voirie. « Tiens, et vous avez pu l'identifier, cet homme ?»« Oh non, 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 mais il avait l'allure de l'ancien domestique de la ferme. »
Plusieurs témoins parlent de ce fameux François, ce flamand au regard fuyant qui ne parlait pratiquement pas le français. C'est une piste à suivre.
Le procureur du roi ordonne aux gendarmes de battre la campagne afin de mettre la main sur cet homme. Un signalement de l'individu est envoyé par le parquet de Tournai dans toutes les communes voisines, y compris en France. À l'époque, les ouvriers sont extrêmement mobiles. Quand ils ne trouvent pas de travail en Belgique, ils traversent la frontière. Ce va-et-vient incessant complique les recherches. Fort heureusement, la collaboration entre les autorités judiciaires des deux pays est excellente. Le médecin légiste confirme que le traversier est bien l'arme du crime. Il correspond parfaitement aux lésions. Les deux enfants ont été violemment frappés à la tête. Leur assassin les a probablement emmenés à la grange pour les tuer. Ce qui lui a laissé le champ libre pour fouiller la maison.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de deux enfants tués dans une ferme à Erine, dans le Hainaut. En mai 1895, un fermier découvre les corps de ses deux fils sous la paille. Restés seuls à la maison, pendant que leurs parents étaient à la messe, ils avaient l'ordre de ne pas ouvrir à des inconnus. Or, ils ont ouvert la porte. Le fermier soupçonne un ancien domestique. Ce dernier est activement recherché. Il a une encre dessinée sur la main gauche, entre le pouce et l'index. Et écoutez bien ce qui va se passer. C'est tout simplement étonnant. Le lendemain du crime, le procureur du roi de Tournai est informé par le procureur de la République à Lille que la police de Roubaix a mis la main sur un individu. On l'a arrêté dans une auberge, dans le cadre d'une bagarre. L'homme a un bonhomme tatoué sur le bras gauche et une encre
sur la main gauche. Il prétend s'appeler François de Beul. Avec un tatoué qui s'appelle François, le procureur pense tenir l'ancien domestique de la ferme de la voirie. Le suspect est incarcéré dans une prison près de Lille. Il ne peut pas être extradé vers la Belgique pour le moment. Les autorités judiciaires belges entreprennent les démarches pour lancer une commission rogatoire consistant à envoyer des enquêteurs belges en France pour interroger le suspect. Le procureur du roi retourne à ses occupations. Dans quelques minutes, il doit aller requérir quelques condamnations dans le prétoire du tribunal correctionnel situé à quelques mètres de son cabinet. On frappe à la porte. Un gendarme entre et lui annonce qu'un autre individu correspondant au signalement reçu se trouve dans la cellule de la gendarmerie de Peck. Et il précise. Eh bien écoutez, il a une encre tatouée sur la main gauche, entre le pouce et l'index, et un bonhomme sur l'avant-bras gauche. Le procureur manque de tomber de sa chaise. Mais et vous l'avez trouvé où ? Eh bien, il a été emmené durant la nuit par le garde champêtre du Mont-Saint-Aubert. La veille, le garde champêtre s'est rendu dans une ferme de son village où un flamand travaille depuis une semaine. Et il correspond au signalement que je vous ai envoyé ? Ah bah oui. Oui, tout à fait. Et il a une mine suspecte, si je peux me permettre, ajoute le gendarme. Le procureur a donc deux hommes correspondant à l'ancien domestique de la ferme de la voirie. L'un est incarcéré à Lille et l'autre à la gendarmerie de Peck. Le gaillard arrêté au Mont-Saint-Aubert, qui a passé la nuit en cellule, à l'allure d'un vagabond avec sa vareuse sale, son pantalon bleu fripé et ses espadrilles. Sa chemise était mouillée au moment de son arrestation, ce qui n'a pas échappé à l'œil du garde champêtre. Ce dernier était intrigué par une tache rougeâtre, devant, au niveau de la ceinture. On aurait dit une tache de sang qu'on a essayé de faire disparaître en frottant. L'individu est interrogé par un gendarme. Il jure qu'il n'a pas quitté la ferme de son maître le dimanche 19 mai, entre 7 et 9 heures. « Et cette tache, c'est du sang !» lance le gendarme. « Oh, come in, quick !» L'homme mime qu'il a tué un lapin. Dans ses affaires à la ferme, les gendarmes ont retrouvé un livret de travail. Il est indiqué que l'homme s'appelle Charles-Louis Dils et qu'il est originaire de Turnhout, en Flandre. Un flamand. Un flamand comme l'ancien domestique de la ferme de la voirie. Le lundi 20 mai, vers 11 heures, le suspect est emmené au palais de justice de Tournai, surveillé par deux gendarmes. Il est attendu par le juge d'instruction, Eugène Seul, chargé de mener l'enquête à charge et à décharge. Charles-Louis Dils conteste être l'auteur du double crime. Il prétend qu'il n'a jamais travaillé pour Charles de Frane, le fermier, qu'il ne connaît même pas d'ailleurs. Charles de Frane et d'autres témoins sont convoqués au palais de justice de Tournai afin d'être confrontés au suspect. Le père des victimes, son voisin et le patron du suspect attendent dans un couloir devant la porte du cabinet d'instruction. Le suspect arrive, entouré par deux gendarmes. Il est solidement enchaîné. Il sourit. Oui, il sourit, donnant l'impression d'avoir la conscience tranquille. Le juge d'instruction fait entrer tout ce petit monde dans son cabinet. Il interroge le papa des victimes. « Dites-moi, est-ce que cet homme a travaillé pour vous ?»«
Ben, non, je ne l'ai jamais vu. Cet homme, c'est pas mon ancien domestique !»
Le voisin confirme que Charles-Louis Dils n'est pas le François qui a travaillé à la ferme de la voirie. Le fermier du Mont-Saint-Aubert déclare qu'il n'était pas chez lui le jour du crime. Toutefois, il a interrogé ses proches et aucun n'a vu le suspect quitter le village ce matin-là. Le juge demande au suspect d'exhiber ses tatouages. Sur l'avant-bras gauche figure le dessin d'une femme. Il y a aussi une encre dessinée sur la main gauche. Charles de Frane s'approche de la main du flamand. « L'encre qui est dessinée sur la main de mon ancien domestique est beaucoup plus grande que celle-ci. » Charles-Louis Dils est suspecté de porter une fausse identité. Mais une chose est certaine. Il n'est pas l'ancien domestique de la ferme de la voirie. Il reste donc la piste du suspect incarcéré à Lille. Mais alors, serait-ce lui l'assassin ? Ce n'est pas certain. Un troisième individu semble correspondre à l'ancien domestique de la ferme de la voirie. En effet, les gendarmes ont poursuivi leurs investigations dans les campagnes. Ils ont interrogé les gens dans les villages. Et l'un d'eux a appris qu'un troisième individu ressemblant au suspect était allé s'engager dans une ferme à Velaine, village situé à une dizaine de kilomètres d'Erin. C'était moins de 24 heures après le départ de François de la ferme de la Voirie. Le gendarme Minick se rend à Velaine. Il est reçu par la veuve qui dirige la ferme. Elle l'informe que son domestique a quitté sa ferme le jour du crime, vers 5h15. Il lui a dit qu'il partait chercher son linge chez la laveuse à Pote, village voisin d'Erin. La veuve raconte. Il est revenu vers 9h15, il me semble. Ah oui, je me rappelle, il détenait un paquet assez volumineux qu'il a ouvert devant moi. Il a dit « Ma laveuse est une buveuse. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Au lieu de mon linge, elle m'a donné des habillements d'hommes et de femmes. » L'enquêteur se frotte la moustache. Il sait que des vêtements d'hommes et de femmes ont été dérobés à la ferme de la Voirie. « Et qu'a-t-il fait ensuite, madame ?»« Eh bien, il m'a demandé son compte. » Je lui ai donné 2,25 francs et il est parti avec son paquet, déclarant qu'il retournait travailler chez son ancien patron à Erin. Tiens, tiens. Et comment s'appelle cet homme ? Demande le gendarme. Alphonse. Ah, il s'appelle Alphonse, pas François. Ah ben non, c'est Alphonse. Et Alphonse comment, madame ? Ah, je ne sais pas. Est-ce que vous savez lire ? Non, je ne sais pas lire. Alphonse, François. Cet individu, dont la description correspond à l'ancien domestique de la ferme de la Voirie, n'a toujours pas de patronyme. Les investigations se poursuivent. Un marchand de bestiaux de Peck déclare que le jour de la mort des fils du fermier, vers 8h15, il a rencontré le suspect sur le chemin du Carn. L'ancien domestique de la ferme de la Voirie portait un paquet. Il se dirigeait vers Selle, village situé entre Velaine et Pote. La macabre découverte a eu lieu une demi-heure plus tard. Tous les indices convergent vers le même homme. Mais où est-il ? Et comment s'appelle-t-il ? À Molambay, village voisin d'Erin, on raconte que cet homme s'appelle Van den Hoven. Toutefois, un cordonnier du hameau de Léaucourt, à Erin, prétend connaître l'identité de l'ancien domestique. Il s'appellerait François Lecaux. Mercredi 22 mai, à Erin, on enterre les deux petites victimes. Une foule considérable s'est rassemblée à la gare, située à mi-chemin entre la ferme de la Voirie et l'église Saint-Aldegonde. Le cercueil renfermant les deux cadavres est porté par des jeunes gens du village. La fanfare accompagne les deux petits anges pour leur dernier voyage. Des marches funèbres sont jouées. La foule se tait. On entend des pleurs. Il y a là des gens du village, des villages voisins, les membres du conseil communal, les garçons des écoles communales et une partie des élèves des religieuses de la Providence. Une généreuse dame a offert une corbeille de lilas blanc et une couronne de fleurs artificielles posée sur le corbillard tiré par deux chevaux. La cérémonie est terminée. Charles de Frane ne rentre pas chez lui. Il se rend à Tournai où le juge d'instruction l'attend. Les deux hommes doivent se rendre à la prison de Lille pour être confrontés à François de Beule. Verdict. Le fermier ne l'identifie pas comme son ancien domestique. La justice française décide cependant de garder François de Beule en détention pour ivresse sur la voie publique et rébellion envers la police de Roubaix le jour de son interpellation. François de Beule n'est pas l'homme qui a assassiné deux enfants, pas plus que Charles-Louis Dils, qui use d'une fausse identité. L'homme s'appelle Charles-Louis de Hayer et il n'est pas natif de Turnhout. Il est cité devant le tribunal correctionnel pour l'usage d'une fausse identité, mais il est disculpé du double crime d'Erin. Il ne reste donc qu'un seul suspect et on ignore toujours où il se trouve. « Juin est arrivé. Les gendarmes apprennent que l'ancien domestique de Charles Defrane s'est rendu dans un estaminet à Aubigy, quelques minutes après avoir quitté la ferme de la voirie le mardi précédant le crime. Le patron du débit de boisson déclare « Il m'a dit qu'il se rendait à Bruxelles pour rejoindre son frère qui est boulanger là-bas. » Le procureur du roi de Tournai demande à la police de Bruxelles de suivre cette piste. Quelques jours plus tard, les policiers bruxellois retrouvent un boulanger originaire de Berkem-les-Hauts-de-Nardes. Son nom de famille est Verhoost. Le boulanger déclare qu'il a un frère, François, qu'il n'a plus vu depuis longtemps. Il ignore si François travaillait dans une ferme à Erine. Il signale que sa famille a cessé toute relation avec lui en raison de sa mauvaise conduite. Alors, attendez, j'ai quelque part une photo de mon frère. Je vais vous la trouver. Les policiers accompagnent le boulanger à son domicile. L'artisan fouille dans ses affaires et retrouve une photo de son frère. Cette photographie représente un ouvrier endimanché, moustachu, bien portant. Les policiers l'inspectent et la comparent avec la description faite par le fermier. C'est l'ancien domestique de la ferme de la voirie, sans aucun doute. Les gendarmes de Peck la montrent au fermier. Il reconnaît son ancien domestique qui a enfin une identité. Il s'agit de François Verhoost. Cette photo est reproduite en plusieurs exemplaires et remise à toutes les gendarmeries du pays. Pour le juge d'instruction, chercher des informations sur le gaillard est dès lors un jeu d'enfant. Il suffit d'aller fouiller dans les archives judiciaires et militaires. Le ministère de la Guerre l'informe que François Verhoost a servi au sein du 1er régiment des guides de Bruxelles, puis au régiment du train. Après avoir obtenu son congé, il s'est rendu en France pour travailler comme ouvrier agricole dans une ferme à Croix, dans le Nord. Il a multiplié les petits boulots des deux côtés de la frontière. Il a des antécédents judiciaires. Juin 1893, condamnation à 4 mois de prison pour des escroqueries. Juillet 1893, 6 mois de prison pour vol. Il a purgé ses 2 peines en France. À sa sortie de prison, il a été expulsé du pays. Et on ignore toujours où il se trouve.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de 2 enfants tués à Erine dans le Hainaut. Ce sont les fils d'un fermier qui soupçonne l'un de ses anciens domestiques. Ce dernier a une encre dessinée sur la main gauche, entre le pouce et l'index. 3 hommes ont été identifiés, mais les 2 premiers sont disculpés. Il n'en reste plus qu'un, mais il est introuvable. Un certain François Verhoost. Le juge d'instruction ignore donc où se cache François Verhoost. Peut-être à Bruxelles, où la gendarmerie et la police sont à ses trousses. Peut-être à Beauvais, en France. Avant de partir d'Erine, François Verhoost a envoyé une lettre à un parent résidant dans la préfecture de l'Oise, l'informant qu'il comptait s'y rendre. Le lendemain du crime, il aurait été vu à Bondu, bourgade située à 8 km au nord de l'île. Les autorités françaises décident d'axer leurs recherches dans le nord de la France. François Verhoost a sa photo affichée dans tous les postes de police et dans toutes les gendarmeries du département, mais aussi dans le Pas-de-Calais et dans l'Oise. Au début du mois de juillet, un suspect est arrêté à Bondu. Le service anthropométrique de Lille est chargé de l'identifier. L'anthropométrie est une technique scientifique consistant à mesurer les particularités dimensionnelles d'un être humain. Cette science, inventée par le statisticien belge Adolphe Quetelet, a inspiré le criminologue français Alphonse Bertillon. L'anthropométrie judiciaire est utilisée en France depuis quelques années déjà. Elle a remplacé le système de signalement dont la Belgique fait encore usage. On compare les mesures prises sur certaines parties du corps, dont la tête, avec des photographies. Les résultats sont concluants. C'est François Verhoost, l'ancien domestique de la ferme de la voirie, qui a été arrêté. L'homme est âgé de 32 ans. Il mesure environ 1,70 m. Il est de corpulence assez forte. Son front est bombé et proéminent. Son visage est coloré, ovale. Le nez est assez gros. La moustache est roussâtre, le menton est large à fossette. Ses yeux sont gris-bleu. Ses cheveux sont châtains. Il a l'air sournois. Il a un accent flamand prononcé. Enfin, il est tatoué. Une femme est dessinée sur un des bras et un soldat sur l'autre. Une encre est dessinée sur une main, entre le pouce et l'index. À la fin du mois d'août, François Verroust est remis aux autorités judiciaires belges, au poste frontière du Montaleu à Moucron, à l'Orient pays flamand. Il est accueilli par une foule hostile de citoyens qui crient « À mort, à mort !» Les gendarmes tentent de retenir la foule qui veut lui faire la peau. Un homme réussit à échapper à la vigilance des gendarmes et frappe François au visage d'un coup de poing. Il est maîtrisé par les forces de l'ordre. François est emmené à la prison de Courtrai par convoi cellulaire. Il est ensuite transféré en train vers Tournai, où de nombreux citoyens d'Erine l'attendent à la gare pour le huer, l'insulter et lui balancer toutes sortes d'objets sur la tête. Les gendarmes emmènent François dans le panier à salade, stationné dans la cour des marchandises. Il est incarcéré à la prison de Tournai, puis emmené au palais de justice. Interrogé par le juge d'instruction, François déclare qu'il est allé en France, quelques jours avant le crime, pour aller travailler. Il n'est plus revenu en Belgique. Il conteste avoir tué des enfants de son ancien patron et avoir commis un vol dans la foulée. Au début du mois de septembre, la chambre du conseil confirme le mandat d'arrêt. François est emmené chez le juge qui le confronte à plusieurs témoins. Ceux-ci le trouvent amaigri depuis son départ d'Erine au mois de mai. Il est confronté à un maître briquetier de Marc-en-Barœul, à qui il a proposé ses services après le crime. Le témoin déclare que François est entré à son service le 21 mai, soit 2 jours après le crime. Le suspect déclare que c'était le 15 mai. Cependant, la veille de son départ vers Bondu, il avait supplié l'épouse du briquetier d'inscrire dans son livret de travail la date du 15 au lieu du 21. Il ne lui a pas expliqué la raison. Mais vous, vous l'avez certainement deviné. Le juge le confronte à un marchand de bestiaux de Pec et à une cabaretière de Melambé, lesquelles déclarent l'avoir vu porter un paquet de vêtements le jour du crime. Le suspect conteste les avoir croisés alors que les témoins jurent qu'il leur a dit bonjour. Il connaît d'ailleurs fort bien le marchand, car ils ont été militaires ensemble. Enfin, François Verroust est confronté au papa des victimes, un homme qui lui a ouvert les portes de son logis. Il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche que Charles lui saute au cou, jurant qu'il va lui faire la peau pour ce qu'il a fait à ses fils. « Ah, je vais te tuer, misérable !» Le magistrat, le greffier et les gendarmes ont bien du mal à retirer les mains du fermier qui entoure le cou du suspect. Charles est maintenu par les gendarmes. Il profère des menaces de mort. François s'assied sur une chaise. D'une voix étouffée, il déclare qu'il n'a pas tué les deux enfants. Le juge d'instruction énumère les éléments à charge. François, qui est soudain d'une pâleur cadavérique, conteste les faits qui lui sont reprochés. Le juge l'inculpe néanmoins d'un vol et d'un double assassinat. En octobre, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles décide de le renvoyer devant la cour d'assises du Hainaut pour répondre d'un vol et d'un double assassinat. Le 24 octobre, une messe est donnée à Erine à la mémoire des petites victimes. Elle est suivie d'une bénédiction dans le cimetière, sur le monument, dressée grâce à l'aide de personnes bienveillantes. Une foule importante assiste à la messe. Beaucoup de ces gens ont prévu de se rendre à Mons pour assister au procès qui débute le 11 décembre à la cour d'assises du Hainaut. Lors du premier jour du procès, le président Achille Robin, conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, interroge l'accusé dans le cadre de l'instruction d'audience. « Monsieur, vous contestez toujours être l'auteur du double crime ?»«
Oui. »
« Pourtant, des témoins vous ont vu, rôder près de la ferme le matin du crime, » précise le président. « Eh bien, ces gens se trompent. J'étais en France. » L'accusé, qui parle un peu mieux le français, campe sur ses positions. Dans le public, les gens manifestent leur colère, surtout les femmes. On ne touche pas aux enfants. Le public réclame justice. Le médecin légiste, Émile Scrivens, vient présenter les conclusions des autopsies réalisées sur les cadavres des deux petites victimes. Il déclare que l'aîné a été frappé à droite de la tête. L'autre enfant, ayant entendu du bruit, s'est rendu dans la grange et a été frappé sur le côté gauche de la tête. Selon le légiste, la mort a été quasi instantanée. Le docteur se saisit de l'arme du crime, le morceau de bois ensanglanté retrouvé près des victimes. Il mime la scène, ce qui provoque, vous l'imaginez, un certain effroi dans l'assemblée. Le prétoire est noir de monde. Un juré pose une question au président. Il voudrait savoir si François Verhoost est gaucher ou droitier. Le président tourne la tête vers le box des accusés. « Bien alors, répondez, Verhoost !»« Ben, je suis droitier !» déclare François. Toutefois, le curé d'Aubigy déclare sous serment qu'il l'a vu utiliser ses deux mains lors de travaux dans les champs. La tension monte. Charles de Frane est appelé à la barre. Il traverse le prétoire. Le papa des victimes est habillé de noir. Il porte encore le deuil. Très ému, il déclare que la porte d'entrée de son logis était fermée par un loquet mis à l'intérieur. Seuls les enfants pouvaient l'ouvrir. Il raconte qu'on lui a volé 13 francs. 13 francs, le prix de deux vies innocentes. Il venait de vendre une génisse pour le prix de 145 francs. François le savait. Il était présent le jour où l'acheteur s'est présenté à la ferme. Cependant, il était parti quand Charles de Frane a touché les sous qu'il a déposés chez une personne de confiance au Mont-Saint-Aubert. C'est au tour de Sidonie, la maman des victimes, d'être appelée à la barre. Elle est aussi habillée en noir. Elle lève son voile. Elle semble avoir pris 10 ans. Depuis cette terrible journée du mois de mai, elle n'arrête pas de pleurer la mort tragique de ses petits. L'huissier d'audience lui présente des vêtements entassés parmi les pièces à conviction. Elle reconnaît ses vêtements, ceux de son mari et surtout, surtout, ceux de ses fils. Elle les avait confectionnés elle-même. Elle reconnaît son point de couture et l'endroit où elle avait placé des épingles. Elle craque. Alors que les auditions de témoins se poursuivent, le doute s'installe dans le public. Notamment quand le juge d'instruction raconte qu'il avait 3 suspects qui avaient une encre tatouée sur la main. Selon ses renseignements, c'est un tatouage courant chez certains militaires. Un habitant du hameau déclare énergiquement qu'il a vu l'accusé le matin du crime. Toutefois, il ne reconnaît pas bien le costume que l'huissier lui présente. Le marchand de bêtes de Peix soutient l'avoir croisé le matin du crime. Il tenait un paquet dont dépassait la manche d'un vêtement d'enfant. Il a connu l'accusé au régiment de génie à Anvers. Le marchand s'écrie. « Eh ben, depuis ce temps, vous avez bien maigri, probablement le chagrin de vos crimes !» Un conducteur de bestiaux affirme, lui aussi, avoir rencontré l'accusé ce matin-là. Ce que conteste François. Les témoignages se succèdent et le doute se dissipe. C'est l'heure du réquisitoire du ministère public et de la plaidoirie de la défense. Pour le chevalier de Bormann qui tient l'accusation, François Verhoost est un mauvais soldat, un mauvais citoyen, un déserteur et un voleur. Maître Seuillet, avocat de la défense, essaye de semer le doute dans l'esprit des jurés, déclarant que les enquêteurs se sont focalisés sur un seul homme. Mais pourquoi est-il l'assassin? C'est une manifestation de l'opinion publique, mais rien ne démontre sa culpabilité. Les jurés sont convaincus par le réquisitoire du ministère public. Après 25 minutes de délibération, François Verhoost est condamné à mort. Son exécution est prévue sur la place verte à Tournai. Les gens réclament sa tête. Pourtant, le roi le gracie. Et c'est ainsi que François Verhoost échappa à la guillotine.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.